une valeur sérieuse à étudier à ce genre de bonhomme. C'est ce qu'on va voir. Alors, trois raisons. D'une part, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas, hein? Toute la parole de Dieu. Et pas seulement les petits morceaux qu'on aime bien, qu'on s'est choisis, et qu'on relit parce qu'ils nous font du bien. Deuxièmement, l'histoire avance et l'homme ne change pas. Ses problèmes demeurent fondamentalement les mêmes à travers les siècles. Une fois qu'on va dépasser, et on va le faire ensemble ce matin, une fois qu'on va dépasser ce côté distance d'histoire historique, de distance culturelle, très rapidement, on va se rendre compte que les problèmes, les soucis de gens comme Amos, Agé, comme Joël, Osée ou Habacuc sont les mêmes pour nous aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est deuxième raison. Les problèmes d'antan sont les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Puis troisièmement, Habacuc, après tout, c'est autant la parole de Dieu que n'importe quel autre livre de la Bible, d'accord? Quand Jésus était venu prêcher dans cette synagogue, derrière lui, il avait les rouleaux de la Torah et il y avait un rouleau pour Habacuc. Il était là, hein? D'accord? Quand Paul était instruit au pied de Gamaliel, eh ben, à côté de lui, il y avait les rouleaux de Habacuc. Alors nous, aujourd'hui, on va sortir ce rouleau et puis on va le dérouler. On va regarder ce qu'il va nous dire. D'accord? Alors, quelques petits rappels pour nous situer le texte. D'abord, j'aimerais commencer avec une définition du prophète. On dit, bon, c'est le livre du prophète Habacuc. Mais un prophète, c'est quoi? On a malheureusement, souvent des images un peu coincées sur le rôle du prophète. On a une expression qui dit « Oh, moi je ne suis pas prophète ». Ça veut dire quoi, ça, je ne suis pas prophète? Je ne suis pas devin, voilà. Je ne sais pas prédire l'avenir. Voilà. Ça veut dire je ne suis pas prophète. Mais est-ce que le prophète, c'est ça? Non, ce n'est pas ça le prophète. Alors ça, il faut tout de suite le préciser. Le prophète, c'est quoi? Comme je l'ai mis là-bas, regardez dans Deutéronome 18, 17 à 19, l'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ah, voilà la définition du prophète. D'accord? Un prophète est un homme, une femme, à qui Dieu s'adresse directement. D'accord? Et Dieu nous parle aujourd'hui par sa parole. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu parlait au prophète directement au sujet de vérité qui n'avait pas été révélée précédemment. Ça, c'est le prophète. Dieu parle au prophète et ensuite le prophète s'adresse aux gens concernés par le message. D'abord, on resitue la définition du prophète. Quand, à quel moment est-ce que Dieu a besoin d'aller chercher un bonhomme, un prophète, une dame, pour dire voilà, va parler. Alors, à quel moment? Ben, lorsqu'il y a un besoin particulier, d'accord? Il y a un message de la part de Dieu qu'il veut communiquer, alors il interpelle un intermédiaire, il lui donne le message et le prophète donne le message aux gens concernés. Quelques exemples pour vous situer concrètement. David, il a fait une grosse bourde, c'est un meurtrier, il a couché avec la femme du mec, il l'a fait tuer, vous vous rappelez? Qu'est-ce que Dieu a fait? Problème? Nathan, va voir. Nathan est venu, dit David, tac, 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 tac. C'était un message directement à Nathan qui est parti voir David. Dit David, Dieu a dit que. Bah, très clair, hein? Alors, il y a plusieurs, dans cet testament, il y a plein d'endroits comme ça où Élie avec Achab, qui est parti voir Achab parce qu'il y a un problème, et puis il dit voilà, ce qui se passera. Donc, Dieu parle par les prophètes aux gens qu'il veut interpeller. Ici, on est où? En quel moment de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe du temps d'Habacuc? Alors, rapidement, je vous rappelle, donc, en 722 avant Jésus-Christ, le peuple assyrien est venu, et là, ou là, l'armée assyrienne est venue, et ils ont emporté en captivité les 10 tribus du Nord, qu'on appelle Israël. Vous vous rappelez, Israël, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, avait été coupé en deux après le départ de Salomon en 931, et puis, donc, il y avait les 10 tribus au Nord, et il y avait les 2 tribus au Sud, qu'on appelle Juda. Donc 722, pouf, Israël est rayé de la carte, il n'existe plus. 120 ans plus tard, grosso modo, en 605 avant Jésus-Christ, ah, ça va être le tour du sud qui va être emporté par les Babyloniens. Donc avec plusieurs déportations, il y aura trois déportations, 605, 597, et la grosse finale où Jérusalem est rasé, le temple détruit en 586. Alors on est où ici? On est probablement à environ 610 avant Jésus-Christ. Donc ça vous situe, hein? 610, on est quelques années avant que les Babyloniens viennent et prennent la première flopée de Judéens pour aller donc en captivité. Cette première, d'ailleurs, partie des Judéens verra des gens comme Daniel partir et hop, s'installer en Babylonie. Donc, 610, grosso modo. Et alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe en ce temps-là, 610, 609, 610, qui est roi en Juda? Eh bien, on a un roi qui s'appelle Joachim ou Joachim ou Jéhoiakim, ça dépend comment vous l'avez dans vos Bibles, qui a régné pendant 11 ans. Bon roi, mauvais roi? Mauvais roi. Alors, si vous savez que, si vous vous rappelez, du côté d'Israël, donc les peuples du Nord, ils avaient eu 19 rois qui se sont succédés, et sur les 19, zéro avait eu le label bon roi. Dans le Sud, donc les deux tribus de Juda, ils ont eu 20 rois, donc jusqu'à entre 931 et jusqu'à la déportation 586, 20 rois, et sur les 20, il y en a eu 8 qui étaient considérés comme des bons rois. Le reste des mauvais. Jéhoiakim est un mauvais roi. Je vous lis Jérémie 22, verset 13-19. Jérémie parle de Joachim et il dit: mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. Voilà une description des 11 années de règne de Joachim, pendant lesquelles le prophète Habacuc a eu son ministère. 2 Chroniques 36, pour ceux qui prennent des notes, 2 Chroniques 36 parle de Joachim. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et puis c'est marqué le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois. Un mauvais roi. Le règne de Joachim demeurera à toujours dans les annales du peuple d'Israël comme l'une des pages noires de leur histoire. Joachim avait suivi les traces de son grand-père Manassé. C'est pour ça que j'ai mis à un endroit ici, là, la liste des rois. Donc Manassé était suivi de Amon, Josias, Joachim et Joachim. Celui-ci ici, il avait que 3 mois et il s'est assassiné. Josias, vous le connaissez, c'est un bon. 31 ans de bon règne sur Juda. Par contre, Manassé, c'est un des pires. Donc c'était Manassé était le grand-père de Joachim, le roi, pendant lequel Habacuc avait son ministère. 3 mois avant le début du règne de Joachim, donc le roi Josias était mort à Megiddo, de manière tragique, une mort qu'on appelle bête et stupide, hein, si vous relisez les textes. Il avait été le dernier roi de Juda qui avait appliqué, d'après la parole, l'expression, qui avait appliqué tout son cœur à servir Dieu. Ça, c'était donc Josias. Pendant ces 31 années de règne, un véritable réveil avait, sous l'impulsion de Josias, touché tout le pays. Josias, un bon roi. À sa mort, Juda va rentrer de plein pied dans la phase finale de son histoire. Ces dernières années seront marquées par la confusion, la dégénérescence, la domination des étrangers et la violence. Voilà, je situe ici la période dans laquelle va travailler notre prophète Habacuc. Alors, le message d'Habacuc, c'est quoi? Alors là, ouvrez vos Bibles, prenez votre crayon si vous en avez un. Il y a quelques versets qu'il faudra absolument souligner si vous n'avez pas encore souligné. C'est un message en 3 chapitres, donc ce n'est pas trop compliqué, on peut facilement le couvrir. En une heure de temps, je pense qu'on pourra le faire. Et on va commencer avec le chapitre 1, verset 1. Donc, ce prophète commence son livre de la manière suivante. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et toi tu contemples l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, de la discorde qui s'élèvent. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Êtes-vous surpris par ces premiers versets? Si vous m'avez écouté depuis le début, vous devriez l'être. Vous vous rappelez? Définition du prophète. C'est quoi? Dieu lui parle, et lui parle au peuple. À qui il parle ici le prophète? À Dieu. C'est un problème. Hein? Pendant tout son livre, vous l'avez lu, hein? Pendant tout son livre, le prophète Habacuc ne parle pas au peuple. Nulle part dans son livre, Habacuc va prêcher. Repentez-vous! Non, nulle part! Habituellement, c'est ce que les prophètes font. Habacuc ne s'adresse pas au peuple, mais à Dieu. Tout son livre est un tête-à-tête, seul à seul. Habacuc, Dieu. Le nom Habacuc veut dire celui qui embrasse, qui étreint, qui lutte. Comme son ancêtre Jacob, Habacuc lutte avec Dieu. Et quelle est la raison de ce combat, de cette lutte avec Dieu? C'est un homme frustré, rempli de questions. Habacuc essaye de réconcilier ce qu'il voit avec ce qu'il croit. Il n'arrive pas. Il vit très mal ce qu'il voit autour de lui, le péché, la tiédeur du peuple de Dieu, la cruauté du monde qui l'environne, son indifférence aux choses de la vie. Seigneur, dit-il, dans le passé, dans un tel contexte, tu aurais agi puissamment. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Que fais-tu? Où es-tu? Habacuc lutte avec le silence de Dieu, l'absence de Dieu. Ça fait longtemps que je te demande d'agir. Ça fait longtemps que je te demande de te soucier de cette situation. Tu ne fais rien. Est-ce que tu as souci de moi? Pourquoi ce silence si long, si atroce? Dans le tumulte environnement de cette période du roi Joachim, Dieu était absent et Habacuc, frustré, il doute. N'importe quel chrétien qui réfléchit à un moment ou un autre de sa vie, il passera par ce genre de période de frustration, de détresse, de doute. Ces moments où il semblerait que nos prières ne vont pas plus haut que le haut du plafond et que le ciel semble d'airain. Et Habacuc, vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, il n'est pas le seul à avoir ainsi verbalisé ses doutes intérieurs ou sa frustration intérieure. Je vous cite 2-3 versets. Asaph, dans le psaume 89, dit « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu » Dans le psaume 90, verset 13, « Jusqu'à quand tarderas-tu encore ?» Psaume 109, verset 1, « Dieu, toi que je loue, sors de ton silence !» Beaucoup de passages nous parlent de ces gens qui ont ainsi, sont tournés vers Dieu pour avoir des réponses à leur frustration. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas aujourd'hui? Pourquoi Dieu permet-il de telles choses? Pourquoi l'Église est-elle si tiède aujourd'hui? Pourquoi donc l'histoire de l'Église de Jésus est-elle si peu glorieuse? Pourquoi des siècles perdus dans l'égarement? Et puis nous prions depuis si longtemps pour un réveil de l'Église. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Jusqu'à quand, Éternel, dit Habacuc, jusqu'à quand? J'ai crié, tu ne m'écoutes pas. Habacuc parle à Dieu, c'est le début d'un dialogue, le dialogue d'Habacuc. La prochaine fois que vous avez des doutes, des questions, relisez Habacuc. Tournez-vous vers le Dieu de la Bible comme ce vieux prophète l'a fait. C'est la seule façon de s'en sortir indemne. Alors, enfin, Dieu répond à Habacuc. Une réponse inattendue. Donc, c'est le verset 5 à 11. Je vais vous en lire quelques extraits. Dieu dit, verset 5, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens ou les Babyloniens, c'est la même chose, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Dieu répond, « Ne t'inquiète pas, mon petit Habacuc, ne t'inquiète pas, j'ai un plan, j'ai prévu répondre à tes interrogations. » Dieu dit à Habacuc, « est-ce que tu crois que c'est par hasard que Josué s'est emparé de Canaan? Est-ce que tu crois que c'est par hasard que Gédéon a mis en fuite le peuple de Madian? Est-ce que tu crois que c'est par hasard que David est monté sur le trône d'Israël malgré Saül? Est-ce que tu crois que c'est par hasard que les Assyriens sont devenus une grande nation? Est-ce que tu crois que c'est par hasard que les Assyriens se sont mangés par les Babyloniens? Tout ça n'est pas produit de la chance. Moi, dit Dieu, c'est moi qui contrôle l'histoire. C'est moi qui ai préparé les Chaldéens ou les Babyloniens. Je les ai préparés. Et ils sont à mon service. Je les envoie, ils arrivent. Non, je ne suis pas sourd. Je ne suis pas aveugle. Je vois le mal du peuple de Juda. J'ai entendu tes prières. Et j'ai vu l'état lamentable dans lequel se trouve mon peuple, sans cesse tourné vers d'autres dieux. Je les ai vus. Je vais agir et je vais régler ce problème. Je vais les guérir une fois pour toutes. Les guérir de ce problème récurrent d'infidélité, se tourner constamment vers d'autres dieux. C'est ce que Dieu dit à Habacuc. Un père racontait à son jeune enfant l'histoire d'une brebis perdue. Elle avait trouvé une ouverture dans la clôture et elle s'était sauvée. Combien elle a apprécié sa liberté. Mais elle était partie si loin qu'elle s'était perdue. Et comme toute histoire de ce genre, le méchant loup lui avait couru après. Heureusement que le berger, le bon berger, l'avait rattrapé à temps et l'avait ramené dans l'enclos. À la fin de l'histoire, tout de suite, le petit garçon demande quoi? Mais est-ce qu'ils ont réparé le trou dans la clôture? C'est la question à 1000 francs. Est-ce qu'ils ont réparé? Dieu avait décidé de réparer le trou dans la clôture. Et il le ferait comment? En envoyant les Chaldéens. Effectivement, les Chaldéens allaient, Babyloniens, allaient mettre le peuple de Juda en Babylonie pour 70 ans. Et à leur retour, le problème de l'idolâtrie avait été effectivement réglé une fois pour toutes. Plus jamais après. On ne retrouve dans l'histoire d'Israël ce problème récurrent d'idolâtrie. C'était la solution de Dieu. Alors, je saute le passage qui décrit ce peuple de Babyloniens parce que c'est terrible. Versets 7 à 9, le texte dit « Il est terrible, est formidable ou redoutable, ce peuple de Babyloniens. À lui seul revient, lui seul vient son droit, sa grandeur, ses chevaux sont plus rapides que des léopards. » Et là, il y a toute une description de prédateurs, donc plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fonce sa proie. Voilà la solution de Dieu au problème de Juda. Habacuc avait un problème, le silence de Dieu. Finalement, Dieu répond à Habacuc, mais la réponse de Dieu à Habacuc devient un plus gros problème encore que le problème du départ. La réponse de Dieu le gêne terriblement. Habacuc avait juste demandé à Dieu de châtier le peuple désobéissant, de susciter en son sein un formidable réveil, le retour de tout leur cœur vers Dieu, le seul vrai Dieu. Cela paraît une bonne prière, un bon désir, comme pour prier pour la conversion de l'un de ses amis, d'un membre de sa famille. Et pourtant, Dieu ne répond pas pendant longtemps, puis quand il répond, ce n'est pas ce que Habacuc attendait. Dieu lui dit, Habacuc, ça y est, je réponds ta prière, je vais moi-même donc faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, ils vont tout détruire en Judée. As-tu déjà prié, à un moment ou à un autre, pour que Dieu te donne plus de patience, plus de douceur, plus de persévérance, une foi plus grande? Qu'as-tu reçu? Des épreuves comme tu n'en avais jamais connues avant? Des épines dans le pied dont on aurait pu se passer? On a tous tendance à proposer à Dieu un remède, une solution clé en main aux problèmes que nous lui présentons. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ça c'est clair. Et bien souvent, il permet des situations qui deviennent pires avant de devenir meilleures. Alors, Habacuc entend cela, sa réaction du prophète. « Mais comment oses-tu, Seigneur? Pourquoi cette méthode, Seigneur? N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Oh, tes yeux sont, verset 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant, c'est Babylone, hein, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » C'est Judas. « Mais Seigneur, tu le dis toi-même, c'est un peuple féroce, déchaîné, terrible, redoutable. Seigneur, excuse-moi, mais j'ai du mal à croire que tu vas vraiment faire quelque chose d'aussi injuste, comment le dire autrement, d'aussi incompatible avec ta nature. Seigneur, j'ai des gros doutes. Comment accepter que le Dieu saint envoie chez lui, au milieu même de son peuple qu'il s'est choisi, ce peuple qu'il chérit comme la prunelle de ses yeux, une tribu de barbares, comme les Babyloniens, pour les châtier? Pour qu'un impie, comme dit le texte, pour qu'un impie engloutit un plus juste que lui, c'est impensable, c'est incroyable, c'est en conflit avec tout ce que je connais de Dieu. Habacuc dit, Seigneur, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Pas d'accord avec ta méthode, mais surtout, je ne suis pas du tout d'accord avec le type d'instrument que tu vas utiliser. Pourquoi telle ou telle personne dans ma vie? On ne peut pas se piffrer, on s'irrite mutuellement, on est si différents, si incompatibles. Je voulais que tu me donnes simplement, Seigneur, de la patience, pas un collègue de travail acariâtre. Seigneur, je voulais que tu mettes dans mon cœur de l'amour, pas que tu me donnes un voisin antipathique. Bon, on a des méthodes, on a des façons, mais les voies de Dieu sont différentes. Nous, on reste surpris, perplexes, souvent, devant le chemin qu'il nous fait emprunter et sur lequel on est censé le suivre. Peut-être que vous connaissez des gens dans votre entourage qui se sont débranchés de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ces méthodes. Ils ne pouvaient pas tolérer certaines circonstances difficiles de leur vie. Dieu, ce que tu fais là, c'est injuste. Je tire la prise, je me déconnecte. Est-ce que tu connais peut-être des chrétiens qui ont marché fidèlement, apparemment fidèlement, jusqu'au jour où la maladie les a frappés? Ils se sont tournés contre Dieu ensuite. Jusqu'au jour où la mort a frappé l'un des siens. Jusqu'au jour où ils ont le marre d'attendre que Dieu leur donne un compagnon, une compagne de vie. Est-ce que nous pensons avoir un droit inaliénable à la santé? Un droit inaliénable à trouver un mari, une femme, à avoir tous nos besoins sur la terre? Si Dieu pense que le bon instrument, c'est la maladie, ou le célibat, la souffrance, la solitude, il fait ce qu'il veut. Dieu se réserve le droit d'être Dieu et d'agir comme bon Le texte dit, verset 5, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire de vos jours une œuvre que vous ne croyez pas, si on vous la racontait. » C'est vrai, Dieu va faire ça. Non, ce n'est pas possible. Si. Les gens de Juda n'ont pas cru au message d'Habacuc. Et pourtant, tout s'est réalisé exactement comme Dieu l'avait prédit. Ils n'ont pas cru à l'instrument que Dieu allait utiliser. Non, Dieu ne ferait jamais ça. Qu'est-ce qu'il nous sent, ce pauvre fou d'Habacuc? Dieu allait envoyer des spirituellement 2 sur 20 pour nous détruire, nous, des 18 sur 20? Ça n'a pas de sens. Et l'histoire se répète 400 ans plus tard, vous vous rappelez? Le monde attend un libérateur. Il soupire après un sauveur, un messie, loin de Dieu. Et Dieu envoie un bébé dans une mangeoire, vulnérable, fragile, faible, limité, bassement humain. Pas très sérieux. De plus, ce soi-disant libérateur, il se fait bêtement pincer, et puis voilà, il meurt comme un bandit cloué sur une croix. Ridicule. Folie. On attendait bien mieux que ça. On ne peut pas croire à cette histoire. Et les Juifs n'ont pas cru à cette histoire. Quand Paul, c'est surprenant, quand Paul annonce l'évangile de Jésus dans la synagogue d'Antioche, il avertit solennellement ses auditeurs juifs de ne pas faire comme leurs prédécesseurs, en refusant le message que Dieu leur envoie, simplement parce que l'emballage n'était pas à leur goût. Et pour ce faire, Paul va citer Habacuc. Dans Actes 13, 41, Paul cite Habacuc et dit « Voyez, arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas, si on vous la racontait. » C'est marrant. L'histoire du travail missionnaire dans le monde, depuis la première annonce de l'Évangile, est pavée de ce genre d'échecs, d'échecs apparents. On priait pour une intervention de Dieu, un réveil, et la situation est devenue pire qu'avant. Un exemple, opération Oka, vous la connaissez tous, en Équateur avec Jim Elliot. 5 missionnaires massacrés par des Indiens. Dieu n'est pas assez fort pour les protéger, pour les préserver. À quoi servaient ces réunions de prière chaque matin où ils priaient, Seigneur, fais-nous grâce aujourd'hui, protège-nous dans nos expéditions. Amen. Bang, bang, 5 morts, 5 veuves, des orphelins. Mourir à 25 ans ou 30 ans, bêtement perdre son mari, après 1 an, 2 ans de mariage, est-ce que c'est juste les méthodes de Dieu? Acceptez-vous que Dieu choisisse ses instruments? Qu'il emprunte des chemins que vous n'auriez vous-même jamais choisis? Acceptez-vous que Dieu réponde à nos prières d'une manière très différente de celle que nous aurions espérée. Dieu n'est pas limité à nos méthodes et à nos moyens. Alors, réaction du prophète. Donc là, on est à la fin du chapitre 1, on rentre dans le chapitre 2. Réaction du prophète, voilà ce qu'il dit. Verset 1 du chapitre 2. Ouf, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce qu'il répondrait à ma supplication, à ma plainte. Après avoir déposé son lourd fardeau aux pieds du Seigneur, Habacuc se détache de son problème et il s'arrête pour monter sur sa tour, comme dit le texte, pour écouter. Il ne comprenait pas. Et comment il pouvait solutionner cette énigme? Par contre, il pouvait l'apporter à Dieu. Il cesse de regarder ses problèmes et se tourne vers Dieu et il attend. Alors j'ai une question pour vous, pour moi. Est-ce qu'il existe dans nos vies si remplies et si chargées ce genre d'endroit, ce genre de tour où je peux monter, que ce soit marcher dans les bois, que ce soit faire du vélo, que ce soit m'enfermer dans mon bureau, où je peux prendre le temps de réfléchir, de méditer, de prier, de m'attendre à Dieu? Et Dieu donne sa réponse. Il répond à la frustration d'Habacuc devant la méthode de Dieu que Habacuc n'accepte pas. Alors voilà. L'explication de Dieu, la réponse de Dieu tient en deux mots. Un, le jour de l'Éternel. Deux, la confiance en l'Éternel. On va regarder ça. Alors, premier verset. Alors ici, les premiers versets du chapitre 2 sont des versets magnifiques. Vraiment, c'est à encadrer, c'est à souligner, c'est à mettre dans votre cuisine, dans votre bureau, dans votre salle de bain. Ces versets sont superbes. Alors, on y va. Première réponse de Dieu, le jour de l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. J'aime bien ça, écris la prophétie. C'est ce qu'on fait quand on imprime des bouquins. On écrit la prophétie, on écrit le message de Dieu. Grave-le sur des tables. Bon, c'est plus des tables maintenant, c'est des bouquins. Non, on imprime avec des caractères d'imprimerie. Grave-le sur des tables afin que tout le monde puisse la lire couramment. C'est exactement ça, hein? Car, pourquoi? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car, pourquoi? Elle s'accomplira, il répète, elle s'accomplira certainement, assurément, c'est béton. Quel verset magnifique. Si même il faut attendre, attends-le patiemment, car il viendra sûrement. Habacuc, dit Dieu, je comprends la perplexité de tes questions. Je vais aujourd'hui soulever quelque part un peu le coin de ce voile sur mes projets d'avenir. Juste pour que tu vois un petit peu ce que j'ai prévu, d'accord? Oui, c'est vrai. Je vais envoyer les Babyloniens, les Chaldéens, pour détruire ton peuple, pour régler le problème auprès de ton peuple. Et répondre à ta prière. Hein? Mais j'ai aussi décidé, et le texte nous le dit juste après, j'ai aussi décidé que les Babyloniens ne feront pas long feu. Je vais soulever les Mèdes et les Perses qui vont venir détruire les Babyloniens. Ils seront anéantis un jour par un autre peuple que j'ai préparé d'avance. Ils sont l'instrument dans mes mains, mais un jour, ils seront plus. J'ai des projets, dit Dieu, très précis. Et un jour, je garantis, un jour, ils s'accompliront. Et le texte dit, et si ça tarde? Attends, parce que le jour vient, c'est prévu. Quand on parle de jour, je pense à mes enfants. Parce que mes enfants me font souvent, comme les vôtres sûrement aussi, beaucoup de requêtes. Hein. Papa, j'ai du bruit à l'arrière de mon vélo, tu vas venir réparer. Papa, tu ne pourrais pas m'aider à réparer la cabane au fond du jardin. Papa, tu ne pourrais pas m'aider à monter ma maquette. Ma réponse est souvent la même, hein. Malheureusement. Ouais, c'est une bonne idée ça. Il faudrait trouver un petit peu de temps, un jour, hein. Et j'ai entendu plusieurs fois, malheureusement, l'un ou l'autre de mes enfants venir se plaindre à maman en disant « Quand papa dit un jour, ça veut dire jamais. » Heureusement que Dieu est très différent de nous. Habacuc 2:3, c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin, qui n'est pas mensongère. Habacuc, dit Dieu, un jour, je m'occuperai des Babyloniens. Et quand Dieu dit un jour, ça veut toujours dire un jour, une date, un moment précis dans le temps, avec un rendez-vous déjà inscrit dans son agenda d'une encre indélébile. Ça, c'est Dieu. Écoutez, acte 17:30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour. Fixer un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, par Jésus. Le temps est déjà fixé à Habacuc. Dieu tient un calendrier très serré. Et autant que je sache, Dieu n'a jamais manqué un seul de ses rendez-vous. Jamais. Deux exemples de ces rendez-vous que Dieu n'a pas manqué. Noé. Dans la voiture, en venant ici, je ne sais pas pourquoi, à l'arrière, il parlait de Méthuselah. Dieu avait dit à Noé, « Je vais envoyer un déluge. » Et le jour de ce déluge a été fixé. Et un homme, Méthuselah, a été désigné comme chronomètre, comme compte à rebours. Ce nom, Méthuselah, était un de ses noms lourds à porter. Il voulait dire, à sa mort, le déluge. Genèse 5, 27, tous les jours de Méthuselah furent de, vous vous rappelez, combien de temps il a vécu? 969 ans. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. 969 ans. Imaginez. C'est bon, je peux y aller là, c'est bon. Encore un petit peu. Parce qu'à sa mort, le déluge. Hein, c'est fou ça. J'ai fixé un rendez-vous. Et à sa mort, les écluses du ciel vont s'ouvrir et le monde entier périra sous l'eau. Le monde entier sauf Noé et sa famille. Et Noé, pendant 120 ans, il a attendu ce jour. 120 années de raillerie de la part de ses contemporains. C'est quoi ce grand paquebot là au milieu du champ? Imaginez! Et Noé, peut-être 120 ans, se posait la question. Est-ce que j'ai bien entendu? Vraiment, je vais construire ça ici? Et puis, Méthuselah meurt. Et pas de boum. Genèse 7, 11. En ce jour-là. Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ah, le jour était prévu. Pas un plus, pas un moins. Le peuple d'Israël en Égypte, vous vous rappelez? Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, on est loin en arrière là-bas, Abraham, hein? Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, ils seront esclaves. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Plusieurs siècles plus tard, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, le jour prévu par Dieu, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays. Dieu a un calendrier et il garde ses rendez-vous. Alors, Habacuc, première chose à faire, attends patiemment le jour. Il viendra sûrement. Pour répondre à Habacuc, Dieu commence par l'encourager à affermir son espérance. Attends patiemment. Il viendra sûrement. Sois ferme. Quelques siècles plus tard, la deuxième lettre de Pierre disait exactement la même chose. Le chrétien du premier siècle, il dit, 2 Pierre 3:1, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Le Seigneur, verset 9, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. On entend Habacuc. S'il tarde, à ce moment-là, elle vient. Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, etc. En ce jour, Jésus a dit, Jean 14, je vais vous préparer une place, et quand elle sera prête, en ce jour, je viendrai pour vous chercher. Pour Habacuc, la réponse de Dieu n'a absolument rien changé à ses circonstances douloureuses. Sa perspective pour le lendemain est toujours la même, et ce ne sera pas joli à voir, ça c'est clair. Et pourtant, sa vie entière a été bouleversée. Et pour lui, comme pour nous aujourd'hui, un choix nous est offert. Vivre à la lumière de notre histoire ici-bas, d'accord, de nos quelques jours ici, ou vivre dans la perspective du jour, de ce jour-là. Premier point. Deuxième point, de la réponse de Dieu, la confiance en l'Éternel. Alors là, pour vous qui avez lu Habacuc, vous êtes sûrement, oh, interpellé devant ce verset 4. Évidemment, ce verset 4, c'est le verset qui a fait le tour du monde. Si Habacuc est connu, c'est à cause de ce verset 4 d'Habacuc, 2, 4. Pourquoi? Quand notre malheureux Martin Luther était en train de gravir sur ses genoux cet escalier qui, paraît-il, avait été importé de Jérusalem. Il paraît que c'était l'escalier sur lequel Jésus avait monté devant Pilate et sur lequel Jésus avait fait couler son sang. Et alors cet escalier était dans une église à Rome, et puis notre moine Martin Luther est en train de gravir sur ses genoux pour obtenir les faveurs de Dieu. Et brusquement, ping! Habacuc 2,4. On va le lire. Voici, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ah! Martin Luther s'est levé et est rentré chez lui. Il avait compris quelque chose. C'est ça qui a transformé, à ce qu'on dit, sa compréhension de Dieu. Le juste vivra par sa foi. Pas par sa confiance en ce qu'il fait, mais par sa foi en Dieu. Il existe aujourd'hui, dans ce monde, deux styles de vie. Une vie de foi, de confiance en soi, et une vie de foi, de confiance en Dieu. Incompatible. Nous avons tous choisi l'un ou l'autre de ces styles de vie. Soit que je prends la parole de Dieu au sérieux et que je fonde chaque instant, de chaque moment, de chaque jour sur elle, en toute confiance, ou bien je me fie à ce que je peux voir, je peux sentir, je peux calculer, je peux comprendre. Dieu explique à Habacuc que même si cela semble impensable à ce jour, Dieu a prévu de détruire prochainement cette nation qu'il utilisera pour punir son peuple. Les Babyloniens seront rapidement renversés par les Mèdes et les Perses. Dieu demande donc à Habacuc de continuer à lui faire confiance malgré ce qu'il traverse aujourd'hui et ce qu'il va aussi traverser demain. Quand on parle de faire confiance aveuglement, je pense presque toujours à prendre l'avion. Parce que quand on prend l'avion, c'est un acte de confiance par excellence. Chaque fois que tu rentres dans l'avion, tu t'assois. Tu contrôles plus rien. Et ça arrive parfois que vous perdez confiance dans l'avion. Ça peut arriver, ça nous est arrivé. Je vous l'ai raconté, je pense, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a quelques années de cela, on était tous en famille dans l'avion, installés, ceinture de sécurité en place. L'avion quitte le terminal, il commence à rouler. Et puis un premier message. Allô, nous annonce qu'il y a un petit problème informatique sur l'avion et nous allons retourner au terminal pour réparer. 15 minutes d'attente. D'accord, ça va. Reste assis. 5 heures plus tard, nous étions toujours à quelques pas du terminal en train de réparer. Le premier problème avait été réparé, suivi d'un deuxième problème qui nous a été annoncé, un troisième problème. Et le dernier problème qu'on nous avait annoncé dans les haut-parleurs, c'était une valve défaillante sur le moteur gauche. Heidi a fait un bond comme ça, là. On dit non, on quitte l'avion. On ne vole pas cet avion-là, il ne faut pas rigoler. Effectivement, le vol est annulé, on a descendu, on passe sur un autre avion. Que s'était-il passé en nous, dans notre cœur? Nous avions progressivement perdu toute confiance dans l'équipage et surtout dans l'appareil pour nous amener à bon port toute la famille. Avez-vous déjà eu envie de tirer sur la prise, de couper le courant avec Dieu, de descendre de l'avion? Est-ce que ce que je crois est vrai, véritablement? Est-ce que ça vaut la peine que j'y investisse toute ma vie, toute ma force, toute ma santé, tout mon argent, tout mon temps? Est-ce que ça vaut la peine? Qui pilote ton avion aujourd'hui? Confiance en soi? Qui conduit ta vie? Dieu demande à Habacuc. Sais-tu que tu peux compter sur moi? Je ne change pas. Mes promesses, je les tiens toujours. Je suis à tes côtés quand ça baigne et quand ça ne va plus. As-tu confiance en moi? Vas-tu t'appuyer sur moi dans ces moments sombres, très sombres de ta vie? Préfères-tu rechercher en toi les ressources dont tu aurais besoin pour faire face aux difficultés? Ai-je suffisamment de crédibilité à tes yeux? Pour ceux qui ont des emails, je vous ai envoyé une peinture. Ça va? Vous avez compris la peinture? Vous avez vu Habacuc dans la peinture? Ai-je suffisamment de crédibilité à tes yeux? Le petit bonhomme dit, aïe, 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 ça va faire mal la piqûre. Je sais que j'en ai besoin, maman m'a dit qu'avec la piqûre, je serai en meilleure santé. Mais ça va faire mal. Est-ce que je peux faire confiance à ce docteur là-bas? Alors, il vérifie les diplômes. Aïe, peut-être que oui. En réponse aux questions profondes et sérieuses d'Habacuc, Dieu ne propose pas de changer ses méthodes, de changer ses plans. Il propose plutôt un regard dans une nouvelle direction, un regard en avant, loin en avant. Il dit, c'est une vision pour les temps éloignés. Et moi, souvent, dans mes épreuves, je demande à Dieu de changer mes circonstances, qui sont trop dures à vivre. Je lui demande de changer sa méthode, de poser son bistouri ou ses sécateurs. Et Dieu dit, non, regarde plus loin. Regarde l'éternité. Est-ce que tu vois l'éternité? Est-ce que je suis préoccupé par ma santé spirituelle, par l'avancée du royaume de Dieu, par son retour proche, par mon péché, par la sainteté de Dieu? Lève la tête. Regarde à l'éternité. Regarde à Dieu. Vis ta vie sur la terre dans la foi, la confiance en Dieu. Il nous a promis quelques années difficiles, quelques piqûres. Ah ouf! Puis, une éternité avec lui. Est-ce que tu le crois? C'est grâce à sa foi que le juste vivra. Sa foi en moi, dit Dieu, le Dieu d'Habacuc. Et alors Dieu poursuit dans le texte, logiquement, avec 5 malédictions contre les Babyloniens et toute nation ou tout individu qui met sa confiance ailleurs que dans Dieu lui-même. Donc dans vos Bibles, c'est marqué, en général, à ce moment-là, 5 malédictions. Et alors, on va les couvrir rapidement, le temps passe vite. Regardez. Donc, c'est à partir du verset 6 jusqu'au verset 19. 5 malédictions. Souvent, c'est marqué malédiction chaldéenne, mais c'est des malédictions qui nous concernent tous. Premièrement, verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ne sommes pas tous, nous tous, enclins à accumuler pour placer notre confiance dans nos richesses? Rien. Rien de ce que nous avons sur cette terre est à nous. Nous sommes tous des intendants. Des biens nous ont été confiés afin d'être redistribués, partagés. Nous sommes des intendants. Imaginez votre rage d'apprendre demain, après-demain, que l'argent que nous avons envoyé à une ONG à Haïti, travaillant parmi les sinistrés donc d'Haïti, a été simplement utilisé pour rendre la vie des administrateurs de l'ONG plus confortable. Honte! Détournement! Nous sommes des administrés. Dieu nous a confié une santé, de l'argent, des talents, une intelligence. Vous l'utilisez pour qui? Pour vous? Pour faire avancer le royaume de Dieu. Malheur à celui qui accumule les richesses qui ne sont pas à lui. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. Même idée, un pas plus loin. Ne sommes-nous pas tous enclins à tenter de nous placer, de placer notre nid et celui de notre famille sur un lieu élevé pour nous mettre à l'abri du malheur. Non seulement nous faisons ça, mais pire que ça, nous encourageons ceux qui nous entourent à faire de même. C'est sage. Oui, il faut se protéger. Mais Dieu dit, malheur à celui qui place son nid bien haut afin de se protéger du malheur. Nul endroit de ce monde n'est protégé. Nul endroit n'est sûr. Nul établissement bancaire n'est sécurisé. 70% des jeunes aujourd'hui veulent trouver un travail où? Dans la fonction publique. Ils disent quoi? Sécurité de l'emploi. Seul Dieu peut nous sécuriser. C'est ce que dit Habacuc. Dieu veut que nous trouvions en lui et en lui seul ce sentiment de sécurité, de paix, et pas dans notre travail, dans notre épargne de retraite, dans notre capital santé bien géré. Verset 13. Malheur à celui qui bâtit une ville à deux sangs, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour ceux qui périssent par le feu. Et quand les nations s'éreintent pour rien, cela vient l'Éternel. Ne sommes-nous pas tous enclins à vivre de telle manière que, ultimement, tous nos efforts, c'est pour du beurre. On se fatigue en vain. On s'éreinte pour rien. Un poème anglais dit « Only one life that will soon be passed. Only what's done for Christ will last. » Vous connaissez ça, hein? On n'a qu'une vie qui sera bientôt passée. Uniquement ce qui a été fait pour le Christ va perdurer. Malheur à celui qui ne se rend pas compte suffisamment vite que si je ne vis pas pour l'éternité, c'est tout perdu. Je suis un insensé qui se fatigue pour rien. Je continue dans cette succession de malédictions. Verset 18. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'est qu'un guide mensonger? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre. Malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi! À la pierre muette, allons, sors de ton sommeil! Peuvent-ils nous enseigner? Il n'y a en eux aucun souffle de vie. Nous ne sommes pas tous enclins à nous fabriquer des idoles, des substituts de Dieu, fabriqués par nos propres mains et dans lesquels nous nous confions, nos amis, notre santé, l'argent mis de côté, notre intellect. Malheur à celui qui place sa confiance dans le fruit de ses efforts. Plutôt qu'en Dieu. Le juste vivra par la foi en Dieu. Ces cinq malédictions qu'on retrouve ici au cœur du livre d'Habacuc vont dans la même direction. À travers d'elles, on entend le rugissement de Dieu. Mettez votre confiance en moi seul. Malheur à quiconque trouve des substituts à Dieu et une vie de confiance en lui-même. Cessez de placez votre nid sur des lieux élevés, afin de vous sentir à l'abri du malheur. Je suis, moi, dit Dieu, je suis le seul lieu sûr, votre seul abri. C'est moi, dit Dieu. Cessez de vous éreinter à travailler pour du vent. Vivez pour ce qui va durer. Abandonnez vos idoles. Elles n'ont pas de vie en elles. Elles sont des guides mensongers. Elles ne peuvent pas vous aider. Ce sont des fausses assurances. Moi seul suis digne de votre adoration. Un choix pour vous et pour moi. Confiance dans la créature, les idoles, confiance dans le créateur. Choix important. Et puis, après ces cinq malédictions, vient la conclusion magistrale. C'est le verset 20. Vous l'avez entouré, j'espère souligné, encadré. Juste après ces cinq malédictions, on a quoi? L'Éternel est dans son sein. Que toute la terre fasse silence devant lui. Celui qui règne sur le monde, ce ne sont pas les idoles babyloniennes. Celui qui mérite notre adoration, c'est Dieu, faites silence devant lui. Adorez-le, Craignez-le. Faites de lui votre tout. Vivez à sa lumière. Votre vie sur la terre est hyper courte. Demain, nous serons devant l'Éternel. Vivez tous vos aujourd'hui à la lumière de ce jour-là. Alors, on arrive à la fin. J'accélère un petit peu. Chapitre 3. Et là, le prophète répond par une prière. La prière d'Habacuc, le prophète. Et cette prière est un formidable modèle pour chacun de nous. Elle nous indique comment répondre à Dieu et prier comme nous sommes dans des situations de crise. Et alors, il fait ce que plein d'autres dans la Bible ont fait. Il se rappelle ce que Dieu a fait dans l'histoire. Habacuc 3:2, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre. Dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Ce verset 2, est traduit de différentes façons. Une façon littérale de rassembler les pensées ici. L'original, c'est la suivante. « Seigneur, j'ai entendu parler de tes actions, de ta renommée. J'ai été témoin de ton œuvre. Je suis en admiration. J'ai la crainte devant ce que tu as fait. Mais renouvelle-les aujourd'hui, dans le cours des temps. Refais-le. » Les psalmistes ont souvent emprunté ce même chemin. Je vous donne deux psaumes. Lisez-les chez vous. Psaume 77, 78, d'Azaph. Je vous en lis juste un verset. « L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne redeviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler? Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. » Ah, c'est comme Habacuc, hein? Verset 12, 17, 12. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. C'est exactement ce que fait Habacuc ici, dans les versets 3 jusqu'à 15, c'est un long poème où il va se remémoriser toutes les actions de Dieu dans le temps. Combien Dieu a puissamment agi, ce qu'il est capable de faire. Le Dieu de l'histoire est présenté ici par Habacuc. Et plusieurs allusions à sa libération du peuple d'Égypte au haut feu des Daniels. Je lis quelques extraits. Vous le voyez, vous pouvez lire ça. Verset 3. « Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre. » Verset 6. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Verset 10. À ton aspect, les montagnes tremblent, les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Verset 11. Le soleil, la lune s'arrêtent dans leur demeure. Est-ce que ce Dieu est ton Dieu? Est-ce que tu le reconnais? Dis, ah ouais, ça c'est mon Dieu ça! Le Dieu majestueux, le Dieu glorieux, le Dieu saint. C'est une description qui est très, 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 très loin du petit Jésus en sucre dans la paille du petit sabot en chocolat de Noël. Hein? Très loin. Et tu, toi aussi, est-ce que je suis époustouflé devant Dieu, un Dieu saint, puissant, plein d'amour, mais totalement intolérant vis-à-vis du péché? Que toute la terre devint, que toute la terre fasse silence devant lui. Silence, respect, comme on dirait aujourd'hui, respect. Réaction du prophète. J'ai entendu, j'ai vu, je me suis rappelé, et mes entrailles sont émues. Je suis tout bouleversé, mes lèvres balbutient, je reste tremblant. Nous nous sommes accoutumés, habitués à entendre parler de Dieu, de sa sainteté, de son horreur du péché, du châtiment tombé sur Jésus, du Fils bien-aimé de Dieu, parce qu'il portait notre péché. Nous nous sommes habitués et nous ne tremblons plus beaucoup. Nous ne balbutions plus beaucoup devant lui. Habacuc a entendu ce rapport de Dieu et il a été impressionné. Oui, je sais maintenant qu'avant de voir ta délivrance, je dois m'attendre à des temps bien difficiles, dit Habacuc. Ton jugement va nous tomber dessus. D'un jour à l'autre, ce sera terrible. Nous nous trouvons ici, comme je vous l'ai dit au début, à quelques années de cette échéance fatale, 605 avant Jésus-Christ, du début de l'invasion des armées babyloniennes en Juda. Ce sera le début de la fin du Juda. La boucle se referme. La grande épopée du peuple d'Israël arrive à sa fin. Et c'est face à cette échéance terrible qu'Habacuc se tourne vers Dieu et il dit: Seigneur, j'ai peur. Je tremble devant ces prochaines épreuves. Je n'ai pas la force en moi pour y faire face. La prière d'Habacuc ne change rien à ces circonstances. L'enfant handicapé est toujours handicapé. Le cancer est toujours là, dans le corps. Habacuc sait, il le sent, l'orage arrive. La terrible tempête arrive, mais avec une vision juste de Dieu, le Dieu de l'histoire, le grand Dieu, le Dieu saint, avec une vision juste de sa vie sur la terre à la lumière du jour de l'Éternel, alors tout est différent. Et voici comment se termine ce dialogue entre le prophète de Dieu et Dieu. Et c'est la fin de ce livre qui est plus connu que le reste du livre. À partir du verset 17, vous avez une succession de descriptions de malheurs que vous devriez introduire avec des « même si, même si, même si, même si, toutefois ». Regardez ça. « Même si le figuier ne fleurit pas ». Même si la vigne ne produit rien, même si le fruit de l'olivier manque, même si les champs ne donnent pas de nourriture, même si les brebis disparaissent des pâturages, même s'il n'y a plus de bœufs dans les étables, toutefois, toutefois. Même si je perds mon travail, même si je perds ma santé, que les forces du mal semblent m'assaillir de tous côtés, même si je ne suis pas apprécié par mes amis, même si mes frères dans la foi ne comprennent pas mon engagement, mon désir de m'engager pour le Seigneur à 100%, même si on me taxe de légaliste ou de conservateur, même si je veux vivre, Seigneur, chaque jour qui me reste à vivre à la lumière de ce jour-là. J'aurai certes des doutes, des questions concernant ta façon d'agir, Seigneur. Je ne m'arrêterai pas de poser des questions. Mais il y a une chose que je ne cesserai de faire. Je ne cesserai de me rappeler qui tu es, ce que tu as fait dans le passé, embrasser par la foi ce que tu as promis pour le futur. Et, verset 18, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ça, c'est fou. On est à 2 ou 3 ans de l'invasion des Babyloniens. Habacuc termine son livre avec ce feu d'artifice, cette déclaration de foi. Je veux me confier en toi. Quelqu'un a dit que la foi chrétienne, c'est non seulement attendre, mais elle chante en attendant. Les chrétiens d'Haïti chantent en attendant. C'est merveilleux. C'est la vraie foi chrétienne. Elle chante à l'arrivée d'une terrible tempête. Elle chante aussi en plein milieu de la tempête. Elle chante pourquoi? Parce qu'elle est malade de la tête? Non. Elle chante parce qu'elle se sait ancrée dans les profondeurs de l'océan, là où la tempête n'existe jamais. Est-ce que tu prends le temps, un peu de temps dans ton emploi, du temps très chargé, du temps pour ancrer ta foi profondément, pour faire pousser les racines de ton palmier profond, très profond? Hébreux 6, 19 dit: cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. L'espérance, pas l'espérance en nous, l'espérance en Dieu, une ancre de l'âme sûre et solide. N'attendons pas les tempête comme les Chaldéens qui nous invasent, qui nous envahissent, pour commencer à prier comme Habacuc. Il nous en faut bien moins pour être ébranlés. Une maladie, un emploi qui tourne mal, une situation de famille difficile, une parole dure de quelqu'un dans l'église peut-être, et voilà que notre foi vacille. Êtes-vous bien ancré? Psaume 146:5, c'est heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. On pourrait dire, heureux celui qui a pour secours le Dieu d'Habacuc. Celui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Je conclus avec juste quelques questions. Ce livre est plein de questions. Je vous en pose 3-4 pour finir, mais il y en aura plein d'autres qu'on pourrait se poser. Suis-je aujourd'hui prêt d'accepter le point de vue de Dieu, sa perspective sur le monde, ses principes de vie, et de les embrasser pour ma vie, de les enseigner, de les transmettre à mes enfants, à mes amis, mes cercles de connaissances, même si intellectuellement c'est pas logique, même si la sagesse populaire me dit d'agir autrement, même si mes amis chrétiens agissent différemment, suis-je prêt à accepter le point de vue de Dieu? Autre question. Suis-je d'accord de laisser une juste vision de Dieu marquer ma vie, mes actions, mes pensées, mes paroles? Une juste vision de qui est Dieu? Relisez chapitre 2, versets 3 à 19. Une juste vision de Dieu. Dieu ne répond pas à Habacuc en lui démontrant qu'il a raison et que sa méthode est la bonne raison et la bonne méthode. Non. Dieu dit, Habacuc, voici qui je suis, souverain, juste, saint. Habacuc dit, waouh, c'est vrai, j'avais oublié. Troisième question. Dieu est-il digne de notre confiance, de notre foi en tout temps? Qu'importe les circonstances, Dieu est-il digne de notre foi? Quatrièmement, quand je vois, je lis ce que Dieu dit et que cela est en conflit avec ce que je pense, qui gagne? On va prier. Seigneur, merci pour ce magnifique prophète d'Habacuc. Ces 3 petits chapitres qui résument si bien les enjeux de notre relation avec toi. Et Seigneur, c'est pour moi un moment où je peux être vraiment interpellé quand je relis Habacuc. Je suis tellement si peu capable de détourner ma confiance de moi-même et de la placer en toi et en toi seul. Et Seigneur, je crois que tu me rappelles à l'ordre et je veux. Je veux, comme Habacuc dit à la fin de ce chapitre 3, je veux me réjouir en l'Éternel. Pas me réjouir parce que j'ai réussi un examen, pas me réjouir parce que je suis en bonne santé, pas me réjouir parce que j'ai pu accumuler, pas me réjouir parce que j'ai un bon boulot. Ça, c'est des grâces que tu nous fais, tu nous donnes des choses, nous devons bien les utiliser, mais je veux me réjouir en toi, trouver mon plaisir en toi et en toi uniquement. C'est ce qu'Habacuc a compris. Seigneur, fais en sorte que vraiment je détache mon attention de moi-même, que je place mes yeux sur toi en toutes circonstances. Cette confiance en toi puisse grandir à travers le temps. Et je suis convaincu que le pilote de l'avion, il nous mènera à bon port. Seigneur, merci pour ce jour où nous te verrons. Aide-nous à vivre nos aujourd'hui à la lumière de ce grand jour où nous pourrons te rencontrer.